Bien, alors en tout cas, bonjour à nouveau à chacun. Comme il a été dit, c'est déjà la cinquième des sept églises que nous allons étudier aujourd'hui. Plus particulièrement, donc les messages que Jésus adresse à différentes églises d'Asie mineure, donc au premier siècle de notre ère, dont je ne vais pas répéter donc tout l'arrière-plan. Ce qui est important là, c'est qu'on a des paroles de Jésus lui-même. Donc en dehors des évangiles, il est important de comprendre qu'on a d'autres paroles de Jésus, en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Et donc sans plus tarder, on va considérer ce que Jésus dit à l'église de Sardes. Et d'emblée, il faut dire que le message de Jésus à l'église de Sardes est sans doute le plus dur. Puisqu'il va lui dire, tu es mort. Il ne peut pas y avoir pire qu'être mort. D'accord? Alors on va considérer ça et on va surtout essayer de comprendre pourquoi Jésus a cette parole à cette église. De quelle mort parle-t-il et qu'est-ce qui a amené la mort à Sardes? Donc gardez ça en tête quand on va lire le texte et ça va être ensuite le fil conducteur de tout ce que je vais dire. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 1. Et au messager de l'église qui est à Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, tu as le renom de vivre et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui s'en allait mourir, car je n'ai point trouvé tes œuvres accomplies devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, et garde-la, et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes un petit nombre de personnes qui n'ont point souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de la vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, comme à l'habitude, alors il y a des mauvaises habitudes, mais il y a aussi des bonnes habitudes, on va commencer à relever un certain nombre d'indices dans le texte qui vont bien nous cadrer le cœur du propos de Jésus. Et donc, je vais vous poser des questions. La sentence la plus forte dans ce texte est celle-ci. Tu as le renom de vivre, mais tu es mort. De quelle mort parle-t-on ici?
Mort spirituelle.
La mort spirituelle. Merci Roland. C'est effectivement c'est la mort spirituelle. C'est pas la mort simplement physique. Jésus ne parlerait pas à un cadavre. Il dit au messager de l'Église, spirituellement, il y a un problème. Tu es mort. Ça me fait penser immédiatement à ce texte de 2 Timothée 3, ayant l'apparence de la crainte de Dieu, de la piété, ici tu as le renom de vivre, mais étant éloigné de sa puissance, mais tu es mort. Et la puissance dont il est question ici, le mot grec, j'aime bien le mot grec dynamis, parce que ça invoque non pas des actes puissants, mais d'abord tout simplement la dynamique de vie. Donc quand je vois ce terme-là, je préfère dire la dynamique de vie, la dynamique de l'esprit, parce que dès qu'on parle de puissance, on a de suite des idées qui nous passent par la tête, qui ne reflètent pas forcément ce qu'est dans le quotidien la puissance, la dynamique de l'esprit de vie en nous. Ce n'est pas forcément faire des miracles à tout va. voyez, c'est être dans cette dynamique de l'esprit. Tu as le renom de vivre, mais tu es mort. Tu as l'apparence de la crainte de Dieu, mais en fait, tu ne connais plus sa puissance, sa dynamique de vie. Et c'est grave parce que Jésus dit, sois vigilant et affermis le reste qui s'en va mourir. Autrement dit, l'état du messager est en train de se refléter dans celui de l'assemblée elle-même. Donc l'assemblée, elle n'est pas encore morte. Mais le quelque chose qui est en train d'agir dans le messager, si ce n'est pas corrigé, ça va se répandre dans l'assemblée entière. Affermis le reste qui s'en va mourir. On peut mettre ça en parallèle avec un autre passage de ce même message de Jésus. Tu as à Sardes un petit nombre de personnes qui n'ont point souillé leurs vêtements. Et on commence d'emblée à se dire, ah, est-ce que la mort dont est frappé le messager serait liée au fait qu'il ait souillé son vêtement, le vêtement blanc ? Que représente le symbole du vêtement blanc dans la parole ?
La pureté.
La pureté, plus précisément encore. Il nous avait revêtu de vêtements de...
La gloire,
mais il y a un terme très précis dans la parole. Le vêtement de... On le retrouve dans l'Apocalypse d'ailleurs. Sinon je vous le dis, si c'est trop compliqué.
Sainteté.
C'est le vêtement de justice. La justice dont il nous revêt pour couvrir notre indignité, notre nudité, il nous revêt de vêtements de justice. Et donc là, on se pose la question, tiens, est-ce que la mort dont il est question serait liée à la perte de la justice, à quelque chose qui n'est plus vécu au niveau de la justice ? Et on va voir en fait que c'est le cœur du problème. Un autre indice que l'on trouve toujours pareil dans le message de Jésus. Jésus se présente, je vous avais dit, à chaque fois, la manière dont Jésus se présente et la promesse qu'il fait au vainqueur est une forte indication de ce qu'est le problème de l'Église. Et là, il dit, « Je suis celui qui a les sept esprits de Dieu. » Ah, il est question de l'esprit de Dieu. On vient de parler de justice, on vient de parler de vie, on vient de parler de mort spirituelle. Voilà, ça commence à converger tout ça. Et il est également, Jésus, celui qui a les sept étoiles dans sa main. Et on avait vu que l'étoile, dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, représente précisément le messager de l'Église. Et je vous renvoie à nouveau à ce texte que j'avais déjà lu, puisqu'on avait déjà vu ce symbole de l'étoile dans la première des églises, l'église d'Éphèse. Dans Daniel 12, on trouve ceci. « Ceux qui en auront rendu d'autres intelligents resplendiront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront conduit beaucoup à la justice, tiens, seront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Donc voilà, le messager annonçant la justice est aux yeux de Dieu comme une étoile. Et c'est sans doute de là que vient ce symbolisme de l'étoile pour le messager. Mais ce que l'on note ici, c'est le messager resplendit à condition qu'il pose bien la justice, celle de Jésus. Un dernier point avant d'aller au cœur du message. Là encore, ce sont des propos de Jésus lui-même. « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. » Ce n'est pas une dimension que je vais trop développer ici, mais je remarque quand même « tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. » C'est comme si Sardes manifestait un intérêt particulier pour la parole prophétique. Le retour de Jésus, quand il va venir. On retrouve souvent dans la parole cette notion que Jésus va venir comme un voleur. Or, en relation là encore avec la parole prophétique, je vous lis ce texte dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 1, 19 à 21. « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes, à laquelle vous faites bien de vous attacher, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire, et que l'étoile, tiens encore le symbole de l'étoile, et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Sachant d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture n'est le résultat d'une interprétation privée, car jamais prophétie n'a été apportée par la volonté d'un homme, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes venant de la part de Dieu ont parlé. Et là encore, même dans son intérêt, l'intérêt de Sardes pour la parole prophétique, l'interprétation n'est possible que poussée par l'Esprit de Dieu. La lampe doit briller, donc il doit y avoir de l'huile dedans. Et c'est comme ça que se lève l'étoile du matin dans le cœur. Et nous savons que l'étoile du matin, c'est... Qui est appelée l'étoile du matin dans la parole?
L'étoile du berger, là.
Jésus.
C'est Jésus lui-même. Oui. Hein, Jésus est l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. Là encore, l'Esprit Saint, la lampe qui brille, la lumière, l'huile, l'onction, l'esprit, l'étoile. Vous voyez, la convergence, on est toujours dans les mêmes symboles. Se pourrait-il que la lampe de Sardes n'ait plus d'huile? Se pourrait-il que la lettre lue par Sardes à chaque culte n'ait plus l'onction, n'ait plus l'huile qui dynamise la parole? Se pourrait-il que cette lettre reste lettre morte? Et qu'en ce sens, la parole du messager n'arrive plus à vivifier l'assemblée? Vous voyez? Et le dernier point, et ça sera terminé pour mon introduction. Quand Jésus dit à celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Effacer le nom du livre de vie. Est-ce que Sardes se confierait un peu trop dans une fausse sécurité? Oh, mon nom est inscrit dans le livre de vie, de toute façon, voilà, c'est fait. Et on perd la dynamique de la marche parce qu'on se sécurise avec des choses que l'on comprend mal et qui ne servent en fait qu'à, oh, bon, c'est bon, je m'installe. On n'est plus dans la dynamique de marche, on n'est plus dans ce que disait Paul, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Je cours encore, je veux encore plus le connaître, je veux encore plus le voir, agir, je veux l'entendre au travers de la parole. Je suis encore dans cette fin, j'ai reçu et pourtant j'en veux encore. On n'est plus là-dedans. Oh, mon nom est dans le livre de vie, terminé. Voilà. Et j'ai l'impression que Sardes s'intéressait à la parole prophétie mais avait perdu l'huile dans la lampe. Et je me demande dans quelle mesure elle ne se sécurisait pas de manière fausse avec des doctrines, mon nom est dans le livre de vie, mais n'était plus dans le fait, oui, mais le livre de vie, c'est le livre de l'agneau, et être dans le livre de vie de l'agneau, ça veut dire d'abord et avant tout, coller à l'agneau, s'attacher à l'agneau, suivre l'agneau, marcher avec l'agneau, toujours cette dynamique de vie. Donc là, il y a... Voilà, par contre, je ne vais pas développer plus cette dimension prophétique et de fausse sécurité. On va maintenant aller directement au reproche principal, et c'est celui que je vais développer, qui est la clé pour laquelle l'Église, quelque part, s'est arrêtée et est en train de mourir. Tu as le renom de vivre, mais tu es mort. Sois vigilant et affermi le reste qui s'en allait mourir, on l'a déjà lu ça, car, et c'est le point, je n'ai point trouvé tes œuvres accomplies devant mon Dieu. Et je vais me focaliser sur le terme accompli. Suivant les traductions, je pense que ce n'est pas le même mot que vous avez là. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le mot que vous avez à ce verset-là, si vous l'avez là, sous les yeux? Je n'ai pas trouvé tes œuvres. Voilà, souvent, la traduction c'est parfait, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Et c'est là que malheureusement les traductions souvent nous posent des problèmes, parce que le mot qui est employé là n'est pas le mot qui est habituellement utilisé pour traduire la perfection, ou la maturité, ou l'âge adulte. C'est le mot qui nous parle de l'accomplissement, de la plénitude, du fait d'être rempli. premier exemple et la première fois dans le Nouveau Testament où ce verbe est employé, accomplir. C'est dans Matthieu 1, versets 21 à 23. C'est la première occurrence de ce mot. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or, tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Et donc, l'emploi majoritaire de ce verbe « accomplir », c'est quand il est question d'une prophétie de l'Ancien Testament qui s'accomplit par un événement dans le Nouveau. La lettre qui, quelque part, était morte tant que l'Esprit n'avait pas accompli dans les actes, la prophétie qui s'accomplit. J'allais presque dire, la lettre de la prophétie qui se remplit de l'Esprit par son accomplissement dans l'histoire. Ça, c'est l'emploi majoritaire de ce mot-là. Donc, à une parole que Dieu a annoncée, correspondra toujours une réalité à un moment ou à un autre, son accomplissement par l'Esprit de Dieu. Le deuxième emploi de ce mot, alors je passe maintenant sur tous les mots qui traduisent l'accomplissement des prophéties, dans Acte 2, verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le deuxième sens de ce mot, c'est remplir. Ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. C'est le même mot. On commence à voir maintenant un lien entre accomplir quelque chose, une prophétie, ou alors ici, accomplir les œuvres, et être rempli de l'Esprit. C'est le même mot en fait. Et c'est dommage qu'on ne garde pas la concordance dans les traductions, parce que du coup, on ne voit pas le lien. Accomplir les œuvres de Dieu, on va voir juste après ce que ça veut dire précisément, c'est la traduction concrète d'être rempli de l'Esprit. Vous voyez ? Le lien profond qu'il y a entre accomplir et remplir. La lettre est remplie de l'Esprit et elle devient vivante. Hein, je ne vais pas développer ce terme, on l'a fait la dernière fois. La parole est vivante et efficace. Une parole vivifiée par l'Esprit. Et sans l'Esprit, elle reste lettre morte. Et enfin, le troisième usage de ce même verbe, donc on a vu qu'il pouvait signifier accomplir, également remplir. On le trouve associé avec le thème de la justice. Et là, on arrive vraiment au cœur du passage de l'Apocalypse. Matthieu 3, verset 15. Vous savez, lorsque Jésus veut se faire baptiser par Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste lui résiste. Mais non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus lui répond, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Accomplir. Jésus passe par le baptême, non pas pour lui-même, mais pour son peuple, nous devons accomplir la justice. Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. » Accomplir la loi comment ? Romains 8, verset 4, « La justice de la loi est accomplie en nous, qui marchons non selon la lettre, mais selon l'esprit. » Ça y est, là on focalise maintenant exactement sur le problème de Sardes. La justice de la loi est accomplie par la marche par l'esprit, qui est une autre manière de dire par la pratique des œuvres, l'accomplissement des œuvres que Dieu a préparées d'avance. L'accomplissement de la justice par la marche par l'esprit et par la pratique des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Maintenant, on comprend un peu mieux quand Jésus dit au messager de Sardes, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies. » les œuvres ne sont pas accomplies. Pourtant, il commence par dire, je connais tes œuvres. Mais tes œuvres ne sont pas accomplies. Elles ne sont pas remplies de l'esprit, elles ne sont pas conduites par l'esprit pour accomplir la justice. La marche dans la justice, la marche par l'esprit. Le messager de l'église de Sardes a perdu cette dynamique de l'esprit. Alors, on va voir un petit peu plus précisément maintenant cette question de la justice, puisqu'elle semble être au cœur du problème de l'église de Sardes. Et donc là, je vais vous provoquer un petit peu. Mais c'est pour nous faire réfléchir. D'accord ? Si je vous dis, l'homme est justifié par les œuvres, qu'est-ce que vous me répondez ?
Non. Non.
Alors, Jean-Louis dit, non. D'autres réponses ?
Par des œuvres humaines ?
Alors, en fait, la question est de quelle œuvre parle-t-on ?
Oui.
En fait. Vous savez qu'il y a les œuvres de la chair, Galates 5. Il y a les œuvres de la loi. Les deux, en fait, viennent de nous-mêmes et nous condamnent. Fruit du mal, les œuvres de la chair. Fruit du bien religieux, les œuvres de la loi. Et pourtant, il en est un dans la parole qui a dit « l'homme est justifié par les œuvres ». C'est qui ? Qui a dit « l'homme est justifié par les œuvres » ? C'est écrit noir sur blanc.
Oui.
Qui c'est qui l'a dit ?
Mais, pas les œuvres seules.
Voilà, mais ça c'est Paul. Il en est un autre qui a dit « non, l'homme est justifié par les œuvres ».
Je ne sais pas si c'est Jean-Pierre.
Comment ?
Je ne sais pas si c'est Jean-Pierre. Je...
Jacques, non, c'est Jacques, le troisième.
Jacques.
C'est Jacques.
Bon, Mais
c'est intéressant parce que les trois ont la même conception du rapport entre la foi et les œuvres.
Ouais.
Et on va voir comment ça s'articule justement avec Paul. Mais c'est très important. Parce que, alors, je vais prendre le contre-pied. Oui, l'homme est justifié par les œuvres. Mais de quelle œuvre parle-t-on ? Et donc, je vous lis ce passage dans Jacques 2, qui, à mon avis, est en lien direct avec le problème de Sardes. Jacques 2, versets 21 à 24. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite, mûre, adulte. Ça, c'est le terme qu'on a vu tout à l'heure. Et l'Écriture a été accomplie. Écriture qui avait dit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seule. Je cite Jacques. Hein. Donc maintenant, il faut bien comprendre ce qui se passe, pour bien l'articuler avec Paul. Quand Jacques, Pierre ou Jean, dans la première épître, nous parle de la foi, en fait, il parle de la confession de foi. Et il dit, il ne suffit pas de confesser ta foi, parce que les vérités que tu proclames, même les démons les proclament, à la différence qu'eux, ils tremblent. Tu crois qu'il y a un Dieu, que Dieu est unique. Tu fais bien, mais les démons aussi. Donc Jacques est en train de dire, la confession de foi, donc maintenant je vais dire confession de foi, pour que ça soit bien clair, la confession de foi, ce que tu dis avec ta bouche, montre-moi ta foi, ta confession de foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi par les œuvres, par la marche par l'esprit, par l'obéissance. Donc Jacques, comme Pierre et Jean, quand on regarde bien ces épîtres-là, quand il parle de foi, il dit, attention, la confession de foi avec la bouche, hein, c'est bien gentil, mais je veux voir les œuvres. Les œuvres d'obéissance. L'exemple que Jacques nous donne, c'est lorsqu'Abraham, par obéissance, Genèse 22, et Dieu mit Abraham à l'épreuve de l'obéissance. Et Abraham a été prêt à sacrifier son fils par obéissance à la voix de l'Éternel, qui le lui avait demandé. Donc, Jacques décortique entre la confession de foi et l'obéissance qui doit aller avec. Donc, l'obéissance, ce ne sont pas les œuvres de la chair. L'obéissance, ce ne sont pas les œuvres de la loi. Il faut que Dieu nous montre et mette devant nous les œuvres dans lesquelles nous devons entrer. Ce n'est possible que par la marche par l'esprit. On n'a pas l'initiative des œuvres. Et c'est là... Pardon. Et c'est là que l'on rejoint l'apôtre Paul. Dans Éphésiens 2, il va dire « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi. » Oui, mais là, maintenant, il faut se dire, attendez, est-ce que le mot « foi » dans la bouche de Paul, c'est la même chose que le mot « foi » dans la bouche de Jacques ? Et en fait, non. « Vous êtes sauvés par la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, sous-entendu les œuvres de la loi, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ, pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Pour Paul, la foi est implicitement obéissante. Paul, il n'y a pas de foi sans obéissance. Plusieurs fois, si vous cliquez dans un logiciel de recherche et que vous cherchez le mot obéir, obéir, obéissance, vous verrez que dans les écrits de Paul, c'est associé à la foi. Je prêche l'évangile pour amener les nations à l'obéissance de la foi. Vous verrez ça dans Romains 1, 5, 10, 16, 15, 18, 16, 26, 2 Corinthiens 9, 13, 2 Corinthiens 10, 5. Non, désolé, c'est un peu rapide. C'est juste pour dire que quand Paul parle de la foi, il ne parle pas de la confession de foi. Il parle de cette foi dynamisée par l'Esprit qui amène cette communion avec Jésus et la pratique de l'obéissance, de l'écoute pour faire ce que le Seigneur met devant nous. Donc pour Paul, foi égale foi obéissante. Pour Jacques, confession de foi plus obéissance égale la foi dont parle Paul. Et c'est pour ça que parfois... Même Luther considérait l'épître de Jacques comme une épître de paille. Il ne savait pas quoi faire de ce verset « L'homme est justifié par les œuvres ». Vous voyez ? Mais simplement parce que la définition de la foi n'est pas exactement la même dans Jacques, Pierre et Jean, quand on regarde bien, avec Paul. Pour Paul, la foi est implicitement obéissante. On ne peut pas avoir la foi, on ne peut pas déconnecter la notion de foi de la notion d'obéissance. Par la pratique des œuvres préparées d'avance, ça ne vient pas de nous, on ne peut pas s'en glorifier, mais afin que nous y marchions, marchions par l'Esprit. Et c'est tout le problème de Sardes. Je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies. Tu as le renom de vivre, tu as la confession de foi, tu as le bon credo avec les bons point de théologie. Mais où est cette dynamique de l'esprit qui te fait entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques? Où est cette marche par l'esprit? Où est ce débordement de vie? Où est... C'est ce que Jésus dit. Donc tu as la confession de foi, mais tes œuvres ne sont pas accomplies, tes œuvres ne sont pas abouties, tes œuvres ne sont pas conduites par l'esprit. Cette notion d'accomplissement est vraiment intéressante parce que c'est en Genèse 15 que Dieu avait dit à Abraham, donc tu auras une postérité, et c'est là qu'il est dit, et Abraham se confia en Dieu et cela lui fut compté à justice. D'accord ? Mais il est dit, ça c'est bien, mais il faut l'accomplissement de cette parole par l'obéissance. Et Abraham était prêt à sacrifier la postérité alors qu'il s'était confié en Dieu des années avant quand Dieu lui avait dit « Tu auras une postérité ». Et c'est de ce clash entre « Dieu me promet une postérité et maintenant il me demande de la sacrifier » que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, lui dit, mais attendez, Dieu, on peut lui faire confiance. Je ne peux pas remettre en doute le fait qu'il m'a dit de cette postérité-là, sortirait des rois, sortirait même le Messie plus tard. Mais attends, là, il me demande de sacrifier ma postérité. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 11, il va ressusciter Isaac. Comme ça, j'obéis, mais il va ressusciter Isaac. Vous voyez ? Donc, la tension entre la confiance dans la parole de Dieu et l'obéissance qui semble aller contre ce que Dieu avait dit, amène Abraham à saisir une réalité nouvelle qui est celle de la résurrection des morts. Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi marcher dans les œuvres de Dieu ? On se retrouve à faire des choses, on est face à des murs, on hurle à Dieu, comme il a été dit tout à l'heure dans le psaume 107, c'est ça ?
Oui.
C'est ça, hein ? Voilà, Dieu envoie un vent, la barque est secouée, tout le monde commence à crier à Dieu, Dieu intervient, ouf ! L'œuvre dans laquelle Dieu nous fait entrer, parfois nous fait poser des questions, on ne comprend pas pourquoi il nous demande ceci, on ne comprend pas pourquoi il nous conduit dans cela, mais c'est toujours pour nous amener à découvrir des dimensions supérieures de Dieu, d'autres choses que l'on ne voyait pas. Et souvent, et ça c'est à cause de la faiblesse de notre chair, nous devons passer par des épreuves pour que Dieu puisse se révéler plus abondamment dans notre vie. Et donc c'est intéressant que la parole que Dieu avait adressé à Abraham, la promesse de la postérité dans Genèse 15, va se trouver accomplie en Genèse 22, quand il a été prêt à tout lâcher, c'est-à-dire la promesse que Dieu lui avait faite d'un fils, de lui demander de sacrifier, il était prêt à le lâcher, sachant que Dieu allait ressusciter le fils. Mais ce qui est important, c'est ça. C'est une chose que d'entendre les promesses, mais ne lâchons pas Dieu pour en voir l'accomplissement dans nos vies, ce qui va boucler la boucle. Et les œuvres vont accomplir les paroles que nous recevons de la part de Dieu. Ne nous contentons pas d'écouter, comme dit Jacques juste avant, mais mettons en pratique la parole, ce qui va accomplir, remplir de l'esprit, les promesses que nous avons reçues par ailleurs. Vous voyez, ce n'est pas simplement de l'écoute, mais il y a un accomplissement, il y a un travail de l'esprit en nous pour accomplir dans nos vies les paroles que nous recevons par ailleurs. Il y a un cycle, il y a une boucle. Sans obéissance, c'est ce que j'ai marqué ici, notre confession de foi, elle reste lettre morte. Et nous risquons de finir comme Sardes. Vous voyez, il ne faut pas rester simplement à la confession de foi, mais chercher, Seigneur, montre-moi voilà, ce que tu veux pour moi, quelle est ta volonté, ouvre-moi un chemin, rester dans cette marche et dans cette dynamique. La parole de Genèse 22, tu sacrifies ton fils, accomplit la parole de Genèse 15, Abraham crut à Dieu qui lui avait promis un fils. Donc le credo, nous dit Jacques, est inséparable de l'obéissance. Et la combinaison entre la confession de foi et l'obéissance, c'est la foi vivante dont parle Paul. Voilà, ça permet de bien articuler comme ça Jacques, Pierre et Jean, et Paul de l'autre côté. Donc, si maintenant je vous repose la question, l'homme est-il justifié par les œuvres ? Maintenant, vous me répondez comment ?
Oui, s'il accomplit la... Oui, il est justifié, s'il accomplit la...
Donc, ce sont les œuvres d'obéissance. Voilà, donc en fait, on précise, alors non si ce sont les œuvres de la chair, non si ce sont les œuvres de la loi, mais oui, au sens de Jacques, s'il est question des œuvres d'obéissance, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions par l'esprit. Voilà, et là, on boucle bien le message à la fois de Paul et de Jacques. Donc effectivement, tout dépend de comment on définit les termes. En fait, c'est ça la clé. Voilà, j'espère que je n'ai perdu personne dans ce distinguo subtil, mais c'est important de comprendre. Les œuvres de la foi, les œuvres d'obéissance ont leur part dans notre vie. Et c'est même ce qui va accomplir les promesses que nous recevons par ailleurs dans la parole. Donc demandons simplement à Dieu de nous conduire et de montrer, de mettre devant nous les choses qu'il désire que nous fassions pour lui. Et on le fait gratuitement, par amour, et ça accomplit notre foi, ça accomplit la justice, la justification par la foi que nous avons reçue. La relation entre obéissance et foi, elle est vraiment étroite, hein. Et pour moi, le passage le plus étroit où est articulé, où sont articulées ces deux notions, c'est dans Romains 6, au verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ? Soit esclave du péché, ce qui conduit à la mort, soit esclave de l'obéissance qui conduit à la justice. Alors non pas la justification par la foi, mais l'accomplissement de cette justice dans notre vie en devenant esclave de l'obéissance. Donc ne séparons pas la marche par l'esprit, la foi, l'obéissance, la justice. Tout ça, ça fait un tout. L'esprit accomplit la confession de foi. Et le dernier point avant la conclusion, le même mot qui est traduit donc par accomplir, remplir, est associé au nom, cette fois le nom, la plénitude, le fait d'être rempli. Je donne un seul exemple où on va trouver à la fois le verbe et le nom. Alors j'ai cru d'ailleurs tout à l'heure que la prière de Paul aux Éphésiens, alors voilà, c'était celle-là en fait, c'était Éphésiens 1, là je vais vous lire d'Éphésiens 3, mais c'est la même idée. Éphésiens 3, 17 à 19. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis, le verbe, de toute la plénitude, le nom. La plénitude de Dieu. À nouveau, c'est dommage que les mêmes termes ne soient pas employés pour les mêmes mots, parce que là, ça permet quand même de comprendre que la plénitude de l'esprit, l'accomplissement de la justice et des œuvres préparées d'avance, en fait, c'est la même chose. C'est la même idée. Et c'est le problème de Sardes. Sardes a oublié cette dimension-là. Elle était dans la confession de foi. Elle avait le renom d'être vivant parce qu'elle avait la bonne théologie, la bonne orthodoxie, mais en fait ne savait absolument plus ce qu'était la marche par l'esprit, les œuvres préparées d'avance, le fait d'être surpris par Dieu, par des choses qu'on n'avait absolument pas planifiées. Ça n'était plus dans cette dynamique. Donc maintenant la conclusion, parce que je vois que le temps approche. Merci. Mais je le vois. La conclusion. Sardes, on peut dire, professe la justification, mais a oublié la sanctification. Et par sanctification, j'entends la marche par l'esprit. Or, on ne peut pas séparer les deux. Paul, dans 1 Corinthiens 1, verset 30, nous dit que c'est par Dieu que vous êtes en Jésus, qui a été fait pour nous, sagesse de Dieu, deux points, justice, sainteté et rédemption, rachat, rançon, suivant les traductions. Recevoir Jésus, c'est recevoir Jésus en justice et en sainteté. On ne peut pas le couper en deux en disant ben, « je reçois la justification par la foi, et puis la sanctification, ou la marche par l'esprit, ou les œuvres préparées d'avance, l'obéissance, voilà, c'est optionnel. » Non, on a les deux ou on n'a aucun des deux. Quand on reçoit Jésus en justice, on le reçoit aussi avec cette dynamique de l'esprit. Ça, c'est un des points clés de l'approche de Calvin dans ce verset-là. Il nous dit on ne peut pas couper Jésus en deux. On le reçoit dans les deux dimensions, et la deuxième va accomplir la première. la marche par l'esprit va accomplir le fait que nous sommes justifiés par la foi. On reçoit les deux, ou alors il y a un problème quelque part. Donc vous voyez que le jugement est sévère. Tu es mort. Tu ne sauras pas à quelle heure je viens. Tu as souillé ton vêtement. J'effacerai ton nom du livre de vie. C'est lourd à porter. Et pourtant, heureusement, à moins que tu ne te repentes. La porte est encore ouverte. Rien n'est perdu. Mais il faut se repentir. Et là, il lui dit précisément comment se repentir. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Sardes, et en particulier son messager, doit revenir à la parole. Par exemple, les différents passages dont je vous ai parlé, mais il y en a plein d'autres, qui montrent que ce que l'on croit doit s'accomplir dans nos vies par l'Esprit. Je ne vais pas trop développer la notion de garder la parole aujourd'hui, puisque ça sera le thème central de la prochaine église Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de l'épreuve. Là, il y a une promesse absolument magnifique. Donc ça, je le développerai la prochaine fois. Mais disons que pour le moment, garder la parole, c'est garder l'esprit de la parole et pas simplement la lettre de la parole. C'est garder cette parole vivante et efficace, même si elle me tranche comme un couteau, parce que c'est l'instrument de Dieu pour me circoncire. Ça fait mal, mais je l'accepte. J'accepte, comme le dit Jacques, de voir mon visage naturel dans la parole. La parole, elle est d'abord là pour montrer le visage naturel, comparé à la bonté et la beauté de Jésus, ce qui me pousse à la repentance et à désirer plus de Jésus. Et donc là, pour conclure, pour ne pas faire trop long, juste quelques petites idées. Pour montrer que la parole ne nous invite pas à l'immobilité, au statisme, au confort, à la fausse sécurité. L'eau vive que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Est-ce que vous vous souvenez à qui Jésus a dit cela ? Et l'eau vive que je te donnerai, la Samaritaine, Jean 5. Donc vous voyez que ce n'est pas une histoire de gros cerveau et de grande théologie compliquée. L'eau vive qui va étancher ta soif va devenir en toi une source d'eau. Ce n'est pas simplement, voilà, je te donne un verre d'eau et c'est terminé. Non, cette eau-là va devenir une source. Vous voyez qu'il y a une dynamique qui s'enclenche. À celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Toujours cette notion de croissance, d'abondance, de débordement, Matthieu 13. Celui qui a ma parole et qui la garde, c'est celui qui m'aime. Et on peut dire, alors ça va, c'est bon, Jésus m'aime, je garde sa parole. Mais celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, notez les verbes au futur, et je me montrerai à lui. Donc, c'est pas simplement je garde la parole, donc j'aime Jésus. Jésus va se montrer et remontrer. Et remontrer d'une manière, d'une autre. Mais on est dans cette dynamique. Ce n'est pas je garde la parole et ça va maintenant, je m'arrête. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, la philadelphie, l'amour fraternel et l'amour. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1. C'est là qu'on voit que la définition de Pierre de la foi, c'est la même que celle de Jacques. Vous avez la confession de foi, faites tous vos efforts pour parvenir à l'amour, l'amour qui accomplit la loi. Car, dit Pierre, si ces choses sont en vous et sont en abondance, elles ne vous laisseront ni stériles ni oisifs pour ce qui est de la connaissance de Jésus. Mais si ces choses ne sont pas en vous et que vous n'avez que la confession de foi, vous avez mis en oubli la purification de vos anciens péchés. Ça y est, on s'est arrêté. Vous voyez que là encore, il y a une dynamique. Ce n'est pas simplement la confession de foi, mais on cherche le Seigneur pour expérimenter ses promesses, parvenir à cet amour qui accomplit la loi, qui fait qu'on est libéré de nous-mêmes pour aimer Dieu et aimer notre prochain. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Et enfin, le verset de conclusion qui a été lu tout à l'heure. Paul court pour saisir Jésus parce qu'il a lui-même été saisi, Philippiens 3. On retrouve la même idée dans 2 Timothée 4. Quelqu'un qui a véritablement été saisi par Jésus court pour le saisir, pour le connaître davantage, pour qu'il se révèle, comme on l'a lu dans Jean 14, pour qu'il se montre à nous, pour qu'on ait un clin d'œil, une parole qui est vivifiée par son esprit, pour expérimenter et approfondir cette relation vivante avec lui. Voilà, c'est ma conclusion. On trouve beaucoup de tels passages dans la parole, et là c'est juste un petit échantillon, de passages qui nous montrent que quand on en veut plus. On donne à celui qui a déjà pour qu'il en ait encore plus, et que ça grandisse et que ça déborde, non seulement pour nous, mais pour les autres. Que le Seigneur donc nous accorde cette foi vivante, cet esprit qui nous rende obéissants à sa voix pour saisir quand il nous parle, par la parole, par une circonstance, par toutes sortes de choses, afin que s'accomplissent en nous les promesses de la parole de Dieu. Des fois, on se dit, oh là là, mais il y a telle et telle promesse dans la parole et je n'en vois pas l'accomplissement dans nos vies. Posons-nous simplement la question de savoir, sommes-nous obéissants ? Voulons-nous obéir à ce que le Seigneur nous montre, à ce qu'il nous dit ? De cette obéissance-là va dépendre l'accomplissement des promesses de la parole dans nos vies par l'Esprit de Dieu. Parce que la foi vivante est nécessairement obéissante. Pas aux hommes, à Dieu. Voilà.